Bonjour. Dans le cadre de l'émission L'écho de ma commune, animée habituellement par Marie-France Guimard-Roche, que je remplace aujourd'hui, je reçois dans les studios de Radio Grand Ciel à Dreux, M. Olivier Marleix, député sortant, candidat à sa réélection dans la deuxième circonscription d'Eure-et-Loir, pour représenter les Républicains. Bonjour M. Marleix,
bonjour,
merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Jean-Marie Pilet, merci de votre invitation.
L'actualité, c'est ce dont on parle aujourd'hui, et aujourd'hui les questions du deuxième tour des élections législatives. Vous êtes l'un des deux rescapés du premier tour, j'ai dit rescapé, hein, j'ai pas dit survivant, avec le candidat Rassemblement National. 10 candidats sont restés sur le carreau, la plupart étaient résignés, d'autres amers et déçus. Comme moi, vous avez pris votre calculette, comment envisagez-vous les reports des voix des 10 candidats malchanceux pour maintenir ou accentuer les 1244 voix qui vous séparent de votre poursuivant? Plus de 15 000 voix orphelines à se partager, presque autant que l'addition de vos deux scores.
Bah écoutez, je pense que les gens me connaissent un peu au terme de ces deux mandats. Voilà, je suis à la fois un homme d'engagement, de conviction, mais je suis aussi quelqu'un d'extrêmement ouvert à l'écoute de tous. Je considère que l'intérêt général, il se défend dans l'écoute des différents acteurs du débat politique. Et donc, je pense que, comment dire, recueillir un rassemblement plus large au second tour, tout en étant ce que je suis, avec mes convictions, mes qualités et mes défauts. Mes convictions sont des défauts sans doute aux yeux de certains, mais mon écoute peut être une qualité.
Forcément, exactement. 56,3 d'abstention dans la deuxième circonscription, soit presque 4 points de plus que pour l'ensemble du département d'Eure-et-Loir, qui est à peu près égal à la participation nationale. Comment expliquez-vous ça? C'est un excès de candidats ou le début d'une faillite démocratique? Ou la fin d'un système?
Malheureusement, il y a un phénomène assez particulier sur Dreux, en fait. C'est là que l'abstention, sur Dreux-Vernouillet, c'est là que l'abstention est la plus forte. Notamment, je pense que c'est l'abstention des jeunes, pas que des jeunes, d'ailleurs dans les quartiers. Donc c'est un sujet préoccupant, parce que ça veut dire que les habitants de ces quartiers ne se sentent pas forcément peut-être représentés, concernés par la vie publique dans notre pays. Et donc c'est un sujet de préoccupation de long terme, je pense.
Pour intéresser ou intéresser eux-mêmes, quoi.
Ils ne se sentent pas assez concernés. C'est ça qui est un sujet de préoccupation, je crois. C'est un travail de longue haleine, et je crains que nous passions les 28 minutes du débat s'il fallait complètement développer. Mais comment faire en sorte que tous les Français aujourd'hui aient bien le sentiment de faire partie d'une même nation. Cette cohésion nationale, je pense que c'est vraiment c'est le sujet majeur de l'avenir de notre pays. Jamais notre pays n'a été en réalité aussi divisé, fracturé. Jamais la cohésion nationale a été autant menacée. Il y a des clivages partout, entre les jeunes et les vieux, entre les urbains et les ruraux, entre les religions, entre les origines, les couleurs de peau, maintenant, qui deviennent un sujet, si on en croit le ministre de l'Éducation nationale, alors que c'est un sujet en France qu'on n'avait même pas le droit au terme de la Déclaration des droits de l'homme, la seule idée de faire une différence sur la couleur de peau est un sujet qui ne pouvait pas exister.
À laquelle on ne pensait pas forcément.
Auquel on ne pensait pas dans le quotidien. Ouais. Je crois que c'est un vrai sujet de préoccupation. Mais encore faut-il avoir un projet politique national pour recréer cette cohésion nationale, que chacun se sente pas seulement citoyen, déjà, c'est la première étape, mais aussi appartenant à la nation française, quoi.
Enfin, c'est forcément le rôle des politiques qui s'est pas un petit peu éloigné du citoyen pour différentes raisons.
C'est pas que le rôle c'est le rôle de choix politique. Oui, moi, je fais partie de ceux qui déplorent la disparition pure et simple, la suppression pure et simple du service national. Le service militaire était déplacé, était devenu un autre âge, etc. Mais je reste convaincu qu'on a besoin d'un service national mixte, garçons-filles, qui permette aux gens de sortir de leur quotidien, de leur quartier. Vous avez des jeunes qui grandissent dans un quartier et qui n'en sortent jamais, en fait. À l'école primaire, maternelle, primaire, collège, lycée, ils restent dans leur quartier. Voilà, c'est pas comme ça qu'on construira des Français. Autrefois, quand On grandissait dans le fin fond du Cantal, etc. Le service national était l'occasion d'aller découvrir. On prenait le
Exactement.
train et on allait à
Oui.
l'autre bout de la France et on découvrait la France. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus, n'a pas été remplacé.
Oui.
Hein.
C'était
Il n'y a pas que le
bêtement.
service national, hein, mais
Oui.
c'est une illustration, je crois, la plus emblématique. Et il faut trouver les moyens de reconstruire sérieusement. C'est un investissement. Recréer une forme de service national, ne serait-ce que de 6 mois, 6 mois de volontariat. Moi, je pense qu'on pourrait le faire dans n'importe quel service public. Ça pourrait se faire dans un EHPAD, ça pourrait se faire dans un
Oui, ça peut.
hôpital, dans un collège, au sein des forces de l'ordre, pour ceux qui le souhaitent, au sein de l'armée aussi, pourquoi évidemment. Mais ce serait en tout cas, c'est un projet qui coûterait plutôt 2 milliards que les 9 milliards d'un vrai service militaire. Donc, je pense qu'un jour, il faudra y revenir.
Mais j'ai souvent pensé que le service militaire, d'abord, c'était le seul endroit où on se retrouvait à égalité avec tout le monde. Et le service militaire, si on parle que de l'armée, il y a plus de 150 métiers dans l'armée. Hein, si on rajoute la gendarmerie, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui rentre au service militaire, ne devrait pas pouvoir en sortir s'il n'a pas appris quelque chose qualifiant.
Non, je pense qu'aujourd'hui, tous les jeunes entre 18 et 25 ans pourraient très bien trouver le moyen de passer 6 mois de leur vie au service de la collectivité et qu'ils en sortiraient gagnants, effectivement. Enfin
Bien
voilà,
sûr, en apprenant quelque
il
chose.
faut qu'on retrouve ce sujet. Les pouvoirs publics tournent un peu autour avec plus ou moins d'énergie depuis de nombreuses années. Et c'est le pire, c'est que contrairement aux idées reçues, ce sont les jeunes. Il y a un sondage qui avait été fait il y a 2 ou 3 ans qui montrait que 77% des jeunes de moins de 25 ans étaient favorables au
Oui,
retour d'un
j'ai
service
lu la même
national
chose,
obligatoire.
effectivement. Oui. On va changer de sujet là. Sur votre tract officiel, vous mentionnez le soutien que vous apportent certains maires. C'est normal de le souligner, mais quelques-uns d'entre eux se sont fendus d'une lettre adressée aux habitants de leur commune pour leur dire tout le bien qu'ils pensent de vous et pour les inciter à voter pour vous. Est-ce que c'est leur rôle?
Je crois que c'est un engagement. J'ai même pas lu les courriers en question d'ailleurs, donc je peux pas complètement en parler. Mais je me souviens que sur le canton
C'était
d'Annette, les maires avaient
pour.
pris une telle initiative il y a 5 ans. C'était une initiative totalement spontanée de maires qui disaient, bah voilà, vous avez des élections dimanche prochain. Et parmi les candidats, il y en a un qu'on connaît et qui a fait beaucoup pour notre territoire. Et donc, à titre personnel, on voulait vous dire. À quel point on l'aimait bien, à quel point elle a fait des choses pour notre territoire, à quel point c'est pas seulement une étiquette politique. Voilà, je trouve ça plutôt sympathique. Inutile de dire que c'est fait sur des fonds qui ne sont pas des fonds publics, qui sont des fonds privés dans le cadre de la campagne. Et c'est un témoignage personnel, amical. Voilà, c'est plutôt une démarche sympathique. Si d'ailleurs c'était autre chose et si ça pouvait être lu autrement, je pense que ce serait pas forcément bien vu. C'est une lettre
Oui.
comminatoire disant voilà le candidat officiel. Je pense que ce serait maladroit.
D'autant plus que ça pourrait être aussi contre-productif
Oui,
si, par
contre-productif,
exemple,
maladroit, bien
si.
sûr.
Oui.
Si le maire n'est pas aimé dans sa
Si,
commune, en
oui,
plus.
et si le candidat choisi n'est pas élu, celui qui a été élu à sa place, il s'en souviendra longtemps. C'est un risque
C'est vraiment un
inutile.
témoignage amical de la part des maires
Bon.
qui ont fait ça. Et voilà,
De ce côté-là, alors ça me va. Les sondages prévoient de plus en plus une future majorité relative, favorable au président Macron. Si vous êtes réélu, allez-vous choisir l'opposition frontale en restant macro incompatible, comme vous l'affirmez dans votre livre Les Liquidateurs, et en continuant d'alerter sur les dangers de la désindustrialisation et la naïveté de la France face aux offensives économiques étrangères, là je cite Marianne de cette semaine, ou seriez-vous une force d'appoint comme certains LR qui deviennent ou qui deviendront Macron compatibles?
C'était complètement Marianne. Jean-Marie Pidat. Marianne dit que je suis un des 6 députés indispensables de la
Exact.
prochaine Assemblée nationale. C'est le plus
C'est très vrai. Je peux sortir la page.
intéressant de l'article. Non, moi, mon attitude, elle est claire. Une fois encore, j'ai des convictions. C'est pas celle du président de la République. J'ai pas sa vision très mondialiste, très libre-échangiste, très voilà. Après, j'observe qu'il a changé, qu'il change parce que notamment, on arrive à Il y a des gens qui lui disent qu'ils ne pensent pas comme lui. Je pense que, enfin, l'Assemblée nationale, elle n'a d'intérêt que parce qu'elle exprime un certain pluralisme et qu'elle représente des Français qui pensent différemment, qu'elle fait remonter du terrain des idées qui sont différentes. Enfin, moi, je n'obéis pas à une doctrine écrite a priori par mon parti. D'ailleurs, ça tombe bien, il n'en a pas trop écrit, ou le peu qu'il a écrit, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, je me sens plutôt à
Donc vous
l'aise.
êtes d'accord avec
Je me
vous?
sens plutôt à l'aise avec moi-même. Mais moi, je me nourris de rencontres avec plein de gens gens extrêmement différents et je porte ces idées à l'Assemblée nationale. Peut arriver. Voyez, prenons la réforme des retraites qui était un sujet dans l'actualité. Le président de la République avait proposé en 2018 une réforme des retraites qui amenait à casser le système de sécurité sociale qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un régime de retraite universel pour les plus modestes et un régime de retraite spécial pour les plus riches, renvoyé à de la capitalisation, etc. Je pensais que c'était une faute parce que ça cassait notre régime de solidarité. Et si on l'avait dupliqué à d'autres branches de la sécurité sociale, notamment en matière de maladie, pour moi, c'était totalement inacceptable. On ne peut pas avoir une assurance maladie universelle, filet de sécurité pour tous, et un système assurantiel privé pour ceux qui en ont les moyens, avec ce qu'on connaît des assurances. C'est-à-dire, vous en êtes à votre deuxième cancer, on ne vous assure plus, quoi. Enfin, donc moi, je ne veux pas ça pour mon pays. Donc je ne voulais pas de la réforme de retraite de 2018. Le président de la République a changé d'avis, et là, il s'inspire d'un projet qui est plutôt celui porté par ma famille politique. Donc, a priori, il y a des chances que je m'y retrouve un peu plus. Voilà, il y a beaucoup de sujets. Enfin, moi, j'ai voté, je ne sais pas, je n'ai pas fait les comptes, hein, mais j'ai dû voter entre, tiens, je pense, des dispositions qui nous ont été proposées dans le quinquennat. J'ai voté contre les deux tiers. Le travail parlementaire, c'est influer pour qu'un texte vienne s'enrichir des visions différentes des parlementaires. Puis au bout du compte, vous voyez si la balance y est ou y est pas. Mais et donc, une situation d'ailleurs de majorité relative, je la trouve intéressante parce que ça donne au président de la République les moyens de, à la fois de déployer une politique, sauf quand vraiment des choses posent problème, où là, il prend le risque d'avoir un blocage par l'ensemble des groupes qui ne sont pas dans sa majorité. Donc ça l'oblige à une discussion plus ouverte. Et je pense que cette discussion plus ouverte, elle est nécessaire dans notre démocratie. Tout ne peut pas venir d'en haut. Et on a besoin, il faut se forcer un peu à écouter les gens. Je pense que la Ve République a créé ce fait majoritaire. Que ce scrutin majoritaire, le président de la République a toujours une majorité. Et donc il a l'assurance de pouvoir passer ses réformes. Il ne faut pas qu'il en abuse, il faut qu'il écoute les Français.
Comme l'adage qui dit que toute idée n'a d'intérêt que si elle est discutable. Effectivement, si les idées venant d'en haut n'étaient pas discutables, ça ne servait pas à grand-chose. Que les Français rejettent maintenant.
Ouais. Dans le précédent quinquennat, on aurait pu s'éviter la crise des Gilets jaunes, j'en suis absolument convaincu. Si on n'avait pas eu, par exemple, l'idée assez saugrenue, dénoncée par tous les groupes d'opposition, d'aller financer la baisse de la fiscalité sur la fortune ou la baisse de la fiscalité sur les dividendes qui intéressaient essentiellement les plus fortunés, par une augmentation de la CSG, y compris sur les plus modestes. C'est-à-dire qu'on a demandé à un retraité qui avait 800 euros de retraite de cotiser un peu plus pour permettre que M. Arnaud paye moins d'impôts. C'est une erreur grossière et qui aurait dû être... Que tous les groupes ont dénoncé. On ne pouvait pas faire ça. Donc il faut écouter le Parlement. Ça me paraît... C'est le rôle du Parlement. Après... c'est quelque chose qu'il faut apprendre à construire aussi. Ça demande aussi une méthode. Il faut que le gouvernement soit ouvert à cette recherche du consensus. Souvent, les gouvernements ne le sont pas. Souvent, les gouvernements prennent une espèce de plaisir à scénariser un bras de fer avec la représentation nationale. Et donc, il y a aussi tout un travail d'humilité, d'ouverture d'esprit dont le gouvernement doit faire preuve. À dire, voilà, je ne vais pas faire l'immense réforme ambitieuse, etc. Je vais faire une petite réforme. On va essayer sur ce petit sujet de se mettre le plus possible d'accord. Chacun me dit ses lignes rouges et puis on voit si on peut avancer. C'est une méthode qui n'est jamais employée dans notre pays.
Hélas, non. On change de sujet. Le cumul des mandats. Êtes-vous de ceux qui pensent que le non-cumul des mandats est une grosse bêtise qui n'a fait qu'accentuer le fossé entre le législateur et le citoyen ?
Oui, pour deux raisons. La première, on le savait au moment où la loi a été votée, c'est qu'on savait que les députés maires étaient en réalité les parlementaires les plus impliqués dans l'élaboration des textes. Il y avait une étude assez poussée du centre de recherche de Sciences Po, qui s'appelle le CEVIPOF, qui montrait que c'était les députés maires qui déposaient le plus d'amendements sur les textes, parce que en fait, c'est ceux qui étaient le plus au fait de la mécanique précise des choses, parce que dans leur mandat de maire, ils rencontraient plus de monde.
Ils sont maires, oui, justement.
Ils voient plus de monde, ils voient toutes les situations. Et voilà, donc c'était une erreur mécanique. Et puis, en réalité, ça a accentué le fait d'être député maire, donnait aux parlementaires une espèce d'indépendance par rapport aux partis politiques. Le fait... Vous voyez, moi, par exemple, je suis pas toujours d'accord avec Jean-Pierre Gorge, maire de Chartres. Il était député maire dans ma famille politique. On l'aurait menacé de lui retirer l'investiture, il n'en avait rien à faire, parce qu'il était maire de Chartres, il aurait probablement été réélu avec ou sans investiture. À l'inverse,
Il
je
avait
vois.
essayé pourtant.
Non, non, on n'a jamais essayé. Là,
Non,
lui a essayé, a pris
non,
son,
il lui a essayé
indépendance.
de.
Mais à l'inverse, dans la majorité actuelle, la benjamine de l'Assemblée nationale, une jeune députée de Savoie, qui s'appelle Tiffany Degoy, élue à 26 ans, elle a eu le malheur de s'abstenir une fois sur le pass vaccinal, en considérant que ce n'était pas forcément une bonne idée pour d'obliger des mineurs de 12 ans à se vacciner, etc. Elle n'a fait que s'abstenir. Elle a été exécutée, débranchée, pas réinvestie en tout cas. C'est terrible. Les partis politiques se permettent aujourd'hui d'exiger une dépendance parce que les parlementaires n'ont plus cet ancrage. Donc, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est rendre les parlementaires un peu plus dépendants des partis politiques. Je pense que c'est tout ce que détestent les Français.
Celles et ceux qui suivent un peu les élections connaissent votre programme pour l'avoir reçu dans leur boîte aux lettres et écouter les différents intervenants à la radio ou à la télé. Avez-vous un ou deux points sur lesquels vous voudriez insister, un point de vue local ou national, sur l'éolien, le nucléaire, le photovoltaïque et sur les mobilités, le transport, l'autoroute A154, A120, la méthanisation aussi?
J'avais une petite fibre écologique, Jean-Marie Pinet. Ça me surprend guère. Non, le sujet numéro un, ça va être la question du pouvoir d'achat dans les mois qui. Enfin, ça l'est déjà avec un litre de gasoil à 2 €. C'est un sujet essentiel parce qu'en fait, on va se retrouver avec des retraités, des salariés modestes qui vont être très vite dans des situations intenables. Hein, quand pour travailler, vous dépensez. Le SMIC aujourd'hui est à 1 300 €. Si vous dépensez 100 € de plus pour vous chauffer ou 80 € de plus par mois et 100 € de plus pour faire votre plein d'essence. On s'en sort déjà pas avec un SMIC quand on est une personne seule.
On se demande de bien comment
Donc
ils feront.
Ça va être catastrophique. Idem pour les retraités. On voit de plus en plus de gens en situation d'arbitrage entre se nourrir, se chauffer ou se soigner. C'est indigne d'un grand pays. Donc cette question, elle va être très lourde très vite. Faut que l'État arrive à trouver des solutions, baisser les taxations sur le carburant. Pas de raison que l'État s'enrichisse à
Surtout avec
l'occasion
les augmentations,
à l'occasion de ces augmentations, puisqu'elles sont proportionnelles. Sur le prix de l'électricité, dans l'Union européenne, on s'est rendu dépendant du gaz russe et on nous a imposé un système de liaison totalement délirant entre le prix du gaz et le prix de l'électricité. Il faut que la France sorte de là, que ça plaise ou pas à nos partenaires européens. Il n'y a pas de raison d'imposer un prix de l'électricité de manière factice, artificielle, liée au prix du gaz. Il faut en sortir. C'est vraiment juste une règle bruxelloise qui veut ça. Vous avez des petites entreprises qui vont couler d'ici la fin de l'année si on ne le fait pas. Une boîte de 5 ou 6 salariés qui a 100 000 euros de facture d'électricité, qui se voit proposer une facture à 500 000 euros, inutile de dire qu'elle est morte, parce qu'elle n'a pas 400 000 euros de marge. Donc voilà sur ces grands sujets, le pouvoir d'achat et le prix de l'énergie qui sont intimement liés. Plus localement, j'aurais envie de parler de la question de la santé qui est centrale. Moi, je suis très fier d'avoir obtenu la décision de reconstruire l'hôpital
L'hôpital,
de Dreux, c'est un sujet majeur parce que l'hôpital de Dreux, c'est aujourd'hui la dernière plateforme de services, d'accès aux soins fiables sur notre territoire. C'est demain un élément d'attractivité pour accueillir de nouveaux médecins, proposer à des médecins d'avoir un travail peut-être un peu plus partagé entre une activité libérale et une activité hospitalière. Encore faut-il que l'hôpital soit attractif pour eux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque les conditions de travail sont malheureusement compliquées. Et
Pour les
après, il faut
médecins.
qu'on trouve des solutions immédiates pour désengorger cet hôpital en réformant de manière rapide des choses qui doivent l'être dans l'accès aux services de santé. Moi, je pense qu'il faut immédiatement permettre à des infirmières, ce qu'on appelle à l'hôpital des infirmières de pratique avancée, c'est-à-dire c'est des infirmières qui ont une expérience assez solide, éventuellement qui ont pu faire repasser un petit examen, qui pourraient vraiment être les auxiliaires d'un médecin et assurer pour les médecins ou sous leur autorité tout ou partie d'une consultation. Quand les gens ont besoin juste de faire renouveler une ordonnance, quand c'est des gens qui ont une affection longue durée, que c'est la même ordonnance qu'il faut renouveler, qu'il y a juste à avoir un entretien médical, on pourrait faire ça par des infirmières de pratique avancée. Et puis, on peut demander aussi plus aux pharmaciens, faire de plus d'actes. On a su le faire pendant le Covid pour renouveler des ordonnances, par exemple. Pourquoi ne pas le faire là aussi? Et puis, il faut immédiatement proposer cette mesure qu'avait proposée Philippe Juvin dans la campagne présidentielle, qui est proposer aux internes en médecine générale, en médecine générale, de faire une année de plus d'arriver à 10 ans d'études comme les spécialistes et de faire cette dernière année en cabinet libéral comme médecin adjoint dans des zones en désertification. Là, on aurait immédiatement 3 500 médecins disponibles dès la prochaine rentrée.
Ça serait effectivement très bien. Mais dans la question que je vous posais sur les mobilités et le transport, c'était en rapport direct avec le pouvoir d'achat. Et il y en a une autre aussi qui devrait vous intéresser, puisque vous l'avez prouvé que ça vous intéressait. C'était la méthanisation agricole, qui risque, si on laisse faire les choses telles qu'on a l'habitude de les laisser faire, ça va être pris par des grosses sociétés financières en s'octroyant toutes les indemnités possibles, sans rendre un petit peu à la population. Alors que des méthanisations de plus petites dimensions directement dans les fermes serait-elle à prôner ou à envisager?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, la méthanisation des petites structures, des petits méthaniseurs, marche bien dans les zones d'élevage, en réalité. Donc,
oui.
On n'a pas
ce qui n'est pas là, ce qui n'est plus notre cas.
On est obligé d'être sur des méthaniseurs d'un autre type qui, en réalité, avec enfin, des résidus, en réalité, de céréales, des résidus de silos, des déchets de pommes de terre non exploitables, etc. Et donc, en général, ça suppose parfois que les agriculteurs s'organisent un peu plus. Mais oui, les énergies renouvelables. En réalité, les éoliennes détruisent le paysage. Notre département a largement son comptant. Sur le photovoltaïque, j'y suis un peu plus favorable dans la mesure où on cherche à l'intégrer dans le paysage. Et puis, j'aurais préféré que ce soit du photovoltaïque français plutôt que du photovoltaïque importé de Chine. Mais on pourrait en imaginer sur des toitures de supermarchés, sur les toitures de granges. Ça, voilà, ça s'intègre de mieux en mieux, en plus dans les toitures. Donc, voilà, faut juste veiller à cet aspect architectural des choses. Mais la méthanisation, ça a du retard. Il y a un petit travail de communication à faire pour expliquer à la population de quoi il s'agit, parce que ça peut susciter parfois de l'inquiétude. Il faut veiller à installer ça à des endroits où le trafic routier, parce qu'en fait, la principale nuisance, c'est les trafics routiers, c'est un peu comme les silos pour les alimenter. Voilà, soit fasse l'objet d'un tout petit peu de concertation. On en a trois là sur la circonscription qui sont en train de démarrer. Et ça s'est bien passé sans soulever aucune protestation, parce qu'à chaque fois il y a eu un peu de concertation. Celui qui a été le plus disputé, c'est celui qui est au-dessus de Cherizy, mais sur Germainville. Mais en réalité, bon, quand les gens ont vu que c'était sur un axe routier qui ne créerait pas de difficultés d'acheminement, je pense que l'acceptation a été au rendez-vous, quoi. Il faut en tout cas que les agriculteurs qui portent ces projets fassent un effort de concertation, d'information et ne fassent pas les choses dans leur coin.
Et les champs voltaïques, qu'est-ce qu'on fait de la terre qui est en dessous? Des terres qui sont en dessous.
C'est terrible, c'est terrible déjà pour la faune, c'est terrible parce qu'on met beaucoup de béton. Voilà. Un maire dans cette campagne m'a proposé d'envisager de rendre public la propriété du foncier en dessous, parce qu'en fait, bon, les propriétaires fonciers qui acceptent des éoliennes l'acceptent parce qu'il y a une rémunération importante, quoi, qu'ils n'habitent pas forcément immédiatement à côté. On serait sur un parc d'éoliennes appartenant systématiquement à des collectivités publiques, ne pouvant s'installer que sur un espace public. Je pense qu'il y aurait un tout petit peu moins de candidats spontanés au développement anarchique de l'éolien.
Ça se fait dans certaines régions. La dernière question, c'est le dessin de la semaine. J'aime dessiner ce qu'on appelle des dessins de presse sur le personnel politique local qui me fournit l'essentiel de mon inspiration. De qui voudriez-vous que je me moque ? Ce n'est pas très radiophonique ce que je vais faire, mais je vais essayer d'être clair pour la bonne compréhension des auditeurs. J'ai dessiné un groupe d'hommes d'âge certain, plutôt ma génération que la vôtre, monsieur le député. Ils sont debout, de dos, tout aussi gris les uns que les autres, à attendre que s'inscrivent devant eux les résultats des élections sur le tableau d'affichage. Face à ces messieurs, une jeune femme, tout en couleur, leur dit « Vous êtes là à attendre les résultats comme si ça allait changer quelque chose ». Je vous offre ce dessin, monsieur Marleix, mais dans celui que je vous offre, il n'y a pas de texte. La bulle réservée au texte est vide. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire dire à cette jeune femme qui représente l'avenir de notre pays, mais aussi la tranche d'âge qui ne vote pas dans 70% des cas?
Oui, c'est pas du tout radiophonique. Votre dessin, là, c'est de la caricature, parce que... Parce qu'aujourd'hui, les élections, c'est pas exactement ça. J'ai plus la liste des candidats sous les yeux, mais je pense qu'il y avait autant de femmes que d'hommes.
Oui, déjà, non, mais...
Il y avait même un canard, paraît-il, qui était candidat aux élections.
Oui, il y avait un
canard,
effectivement.
Il était tout jaune et tout.
Oui.
Enfin, je suis pas sûr que c'était vraiment lui qui était candidat. Et beaucoup de candidats assez jeunes, la moyenne d'âge... Moyen-Âge, je pense, était assez jeune. Donc c'est pas exactement ça. La politique, c'est triste qu'on ait toujours cette représentation-là.
Oui, mais la tranche d'âge qui vote pas à 70%, c'est pas une caricature, c'est réel. De 18 à 35 ans, il y en a 70.
Ah oui, donc là, les personnes âgées qui regardent, qui regardent les résultats, ce sont les plus âgées. Mais cette jeune fille, il faut qu'elle se parle à elle-même, quoi. C'est une génération dont prendre en main son destin. C'est pas, vous voyez, le fait qu'on imagine que les jeunes vont devoir, que ce soit aux vieux de dire aux jeunes ce qu'il faut qu'ils s'engagent, c'est déjà choquant comme idée en soi. Enfin, moi j'ai commencé à m'intéresser à la politique, à militer. J'avais 15 ans. Voilà, c'est spontané. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut juste, moi, vous savez, une des choses que j'ai pris le temps et que j'ai aimé faire pendant mon mandat, c'est de recevoir des groupes de scolaires ou d'aller devant des écoles. Je crois que quasiment chaque mois, donc ça fait chaque mois sur 12, ça fait donc, je me vais en maths, sur 12 mois, enfin, moins le Covid, alors je peux pas vous donner un calcul exact. Enfin, en tout cas, j'ai bien reçu une quarantaine de groupes d'élèves à l'Assemblée nationale. Alors, pour faire ce travail, de leur expliquer ce que c'était que la démocratie, les faire un peu rêver sur notre histoire, le fait que c'est à chacun de nous qu'il appartient de prolonger cette histoire en votant. C'est une très noble mission. Et voilà, remettre les choses dans cette perspective de responsabilité historique. Vous êtes attaché à l'avenir de notre planète. Je le suis aussi, évidemment. Mais remettre les choses en perspective. Je crois que le drame de notre vie quotidienne, c'est qu'il n'y a plus ce travail de mise en perspective. On a une responsabilité. Ça marche assez bien sur les questions environnementales pour les jeunes, sur l'évolution de la planète. Il faut le faire aussi sur l'évolution de notre histoire. C'est quoi l'histoire du monde? On voit que le tragique revient à nos portes avec un président russe belliciste qui recrée les... pressant que l'histoire se répète avec le pari des dictateurs que les démocraties seront plus faibles. Donc voilà, resensibiliser les jeunes à cette responsabilité. Si j'avais pas été député, j'aurais assez aimé être prof d'histoire.
Tiens donc. Et votre personnage préféré, Napoléon III?
Non, parce que j'aime bien l'histoire qui se termine quand même bien et la fin n'était pas...
La fin n'était pas terrible, mais enfin, c'était une belle période.
Non, mais le général de Gaulle, parce que c'est un pays qui était au bord de l'effondrement et qui a su renaître de ses cendres. Je vois une colombe en face, c'est pas le phénix. Je ne sais pas quel rôle a pu jouer le Saint-Esprit dans la résurrection de la France à cette époque-là, mais voilà, un pays peut renaître à condition de le vouloir.
Monsieur Olivier Marleix, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour répondre à mes questions. Je remercie Roland Richard à la technique et je vous souhaite une excellente journée ainsi qu'à nos auditeurs.